Shavua Tov, bonjour, vous êtes bien sur Radio J, il est 6h, nous sommes le dimanche 3 août 2025, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 660e jour de guerre et toujours 50 otages retenus dans la bande de Gaza. Bienvenue dans le 6-9 week-end, ravi de vous retrouver ce dimanche matin, jour de jeûne de Tisha B'Av. Pour vous accompagner ce matin à mes côtés, comme tous les jours, Eva Soto est avec nous. Bonjour Eva.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Et ce matin, nous retrouvons Alan à la réalisation de cette émission. Bonjour Alan.
Salut Kevin, comment vas-tu?
Eh bien, comme un dimanche de jeûne.
Voilà.
J'espère que vous avez passé un bon Shabbat. Un grand merci de vous réveiller avec nous le dimanche. Je vous donne le programme peut-être en ce dimanche 3 août. Et bien sûr, Radio J, on reviendra sur l'actualité. Les détails dans le journal d'Eva Soto. Le dimanche matin, on décrypte l'actualité sportive. On va vous parler d'un emblématique pilote de Formule 1 avec notre passionné de sport, Anna Felouz, qui vous donne rendez-vous tous les dimanches. Vous saurez tout dans une dizaine de minutes. Et bien sûr, la matinale week-end vous accompagne en musique pour un réveil tout en douceur avec Shirim, votre chanson israélienne. Et puis, juste avant 6h30, on prendra notre cours d'histoire avec Vladimir Fedorovski. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Et on commence avec le journal d'Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
À la une de l'actualité, le Hamas publie une nouvelle vidéo de propagande, cette fois-ci celle d'Eviatar David.
La famille du jeune homme en a autorisé 40 secondes de diffusion. Eviatar est squelettique, il ne mange pas pendant plusieurs jours d'affilée et creuse un trou dans un tunnel. Il dit, probablement sous la dictée du Hamas, qu'il craint que ce soit sa propre tombe, tant il sent qu'il est en train de se diriger vers la mort. Des rassemblements ont eu lieu simultanément en Israël, au carrefour, dans les villes et villages de tout le pays. Et hier soir, ce sont des milliers de personnes qui se sont réunies place des otages à Tel Aviv. La sœur d'Eviatar, Yela David, a pris la parole à la tribune.
Le Hamas utilise Eviatar dans l'une des campagnes les plus horribles et les plus calculées qui soient. Il l'affame délibérément, utilise systématiquement ses souffrances atroces comme un outil pervers pour leur propagande dépravée. C'est assez, on en a assez. Mon cher frère Eviatar, maman, papa et moi t'aimons tellement. Et nous pleurons parce que tu nous manques tant. Maman est brisée, elle ne travaille plus. Papa entend ta voix dans la nuit, ne peut pas dormir. Mais Ellie et moi essayons de prendre soin d'eux autant que possible.
La sœur d'Eviatar David, otage du Hamas, hier soir, place des otages.
Hier soir, le ministre des Français des Affaires étrangères a condamné les vidéos de propagande du Hamas, des images ignobles et insupportables, a écrit Jean-Noël Barrot.
Le président de l'État d'Israël, lui, s'est entretenu avec la famille d'Eviatar David et la mère de l'otage Guy Gilboa Dalal, qui est détenu avec lui. Isaac Herzog a confirmé les informations des services israéliens. Le Hamas et ses hommes ont bien de quoi se nourrir et ils affament donc volontairement les otages. Il y en a encore 50 dans la bande de Gaza, dont 20 encore vivants. Le cœur de la nation brûle d'inquiétude et de douleur, écrit le bureau du président Herzog dans son communiqué.
C'est dans ce contexte que l'administration Trump change de stratégie dans les négociations pour libérer les otages.
Selon l'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, les discussions doivent être centrées sur le tout ou rien, c'est-à-dire le retour de tous les otages en une seule fois, donc plus par phase, et la fin totale de la guerre. C'est ce qu'a dit Steve Witkoff aux familles d'otages à Tel Aviv. Il a affirmé que c'est le président Trump lui-même qui avait souhaité ces rencontres pour entendre leurs doléances.
Sur le terrain, le commandant adjoint du bataillon Cheikh Radwan du Hamas est éliminé par Tzal.
Il était en charge de la brigade terroriste de la ville de Gaza et s'occupait d'organiser des attaques contre Israël et les troupes de Tzal. L'opération a eu lieu la semaine dernière. C'est l'armée de l'air qui a mené cette frappe et ces deux derniers jours, Tzal a frappé plus de 130 cibles terroristes dans la bande de Gaza. Actuellement, 4 divisions terrestres sont aussi en opération dans le territoire.
Au chapitre humanitaire, des avions en provenance de Jordanie, des Émirats Arabes Unis, d'Égypte, d'Allemagne et de France ont largué 90 colis d'aide humanitaire.
Ces opérations ont eu lieu dans le nord et le sud de la bande de Gaza au cours des dernières heures. Les colis contiennent de la nourriture. Tzal affirme que ces largages ont été effectués conformément aux directives politiques et dans le cadre de la coopération entre Israël et les pays concernés. 220 camions chargés de vivres passent aussi chaque jour la frontière d'après l'Allemagne. Même si Berlin estime que cela reste très insuffisant pour atténuer une situation d'urgence, le gouvernement allemand dénonce aussi le Hamas qui fait barrage à la livraison de ses aides à la population.
Un juif new-yorkais de 70 ans fait partie des 4 citoyens américains détenus en Iran.
C'est ce que rapporte le New York Times. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, ce juif new-yorkais est propriétaire d'une bijouterie. Il est interrogé au sujet d'un voyage en Israël. Les 4 otages du régime islamique s'étaient tous rendus en Iran pour rendre visite à leurs proches. Les familles ont demandé de garder l'anonymat, craignant l'aggravation de leur situation.
Le ministère syrien de la Défense déclare qu'une attaque menée par les forces démocratique syrienne.
Une attaque dirigée par les Kurdes et soutenue par les États-Unis dans la campagne de la ville de Manbij dans le nord du pays. 3 militaires et 3 civils ont été blessés. Les forces de défense syriennes n'ont pas encore fait de commentaires.
La guerre en Ukraine. Kiev a attaqué hier des raffineries et des entreprises du complexe militaro-industriel russe.
2 raffineries, celles de Ryazan et de Novobukhovsk, ont été touchées, ainsi que des sites de stockage et de lancement de drones iraniens, ceux de type Shahed utilisés par la Russie pour attaquer l'Ukraine. Pour ce qui concerne l'Europe, l'ancien ambassadeur de France en Russie évoque la stratégie de Moscou au micro de LCI, Pierre Lévy.
La Russie n'attaquera pas forcément au sens militaire du terme. Elle pourra tester l'alliance peut-être avec des opérations sous faux drapeau. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de façons sur un mode hybride d'intervenir et d'affaiblir les pays européens, de fausser des élections nationales, d'utiliser certains États membres, je pense en particulier la Hongrie ou la Slovaquie, à son bénéfice. Donc clairement, on est dans une confrontation de longue haleine.
Pierre Lévy, ancien ambassadeur de France en Russie.
Merci Eva Sauton, on vous retrouve tout au long de cette matinale. 6h07, l'heure de votre météo de ce dimanche 3 août. Ce matin, le temps connaît une belle amélioration avec un soleil généreux qui brille sur une majeure partie du pays. Il fera entre 14 et 25 degrés au cours de la journée. Sur la côte normande, il fera entre 14 et 21 degrés. Et en Israël, à Jérusalem, les températures seront comprises entre 20 et 30 degrés au cours de la journée. Il fera 31 degrés à Tel Aviv, 30 à Haïfa et 39 degrés à Eilat.
Bloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
6h et bientôt 8 minutes sur l'antenne de Radio J. Comme chaque dimanche, on retrouve notre passionnée de sport, Anna Fellous. Aujourd'hui, Anna, au micro d'Eva Soto, vous allez nous parler du triple champion du monde de Formule 1, Ayrton Senna, mort tragiquement le 1er mai 1994.
Bonjour. Oui, quand il nous a quittés, j'avais seulement 6 ans et mon intérêt pour le sport automobile était proche de zéro. Donc forcément, sur le moment, je me suis sentie beaucoup moins concernée. Et puis le temps a passé. Ayrton Senna, c'est un peu le nom que tout le monde connaît en Formule 1 avec Alain Prost en France. Alors on le connaît. On sait qu'il a été un grand champion, une force de la nature, un exemple pour beaucoup et même un héros national. Une adoration que je voyais, imaginais et que je trouvais normale mais que je ne comprenais pas complètement. Et puis j'ai fait connaissance avec Ayrton Senna, par les propos des uns et des autres, comment chacun en parle, le rôle qu'il a joué chez les pilotes d'aujourd'hui, mais pas seulement, comment chacun se le représente dans sa tête ou comment il est représenté depuis sa disparition. Et puis j'ai commencé à comprendre vraiment.
Il y a une série qui est sortie sur lui, une série de biopics en plusieurs épisodes qui retrace toute la vie du pilote.
Oui, je sais bien que c'est un petit peu romancé, mais ça a amplifié ma compréhension de l'adoration pour lui. Je comprends la passion qu'il animait, cette volonté inébranlable d'être pilote malgré les difficultés de là où il venait. J'ai compris aussi que rien ne pouvait l'arrêter finalement. Seulement un crash en course pouvait l'arrêter. Je comprends également l'adoration parce que je comprends aussi le talent mis au service de la détermination et du travail. Je comprends la mentalité, l'acceptation du défi. Je comprends un peu tout ce qui le rend mythique finalement. Je comprends aussi sa dévotion au sport, la sécurité des pilotes. J'ai en tête l'image de lui qui saute de sa voiture pour aller secourir un autre pilote qui venait d'avoir un grave accident et qui lui a sauvé la vie au péril de la sienne. Je comprends sa rivalité devenue amitié avec Alain Prost. Je comprends cet objectif de piloter et d'être le meilleur, de le rester aussi, de s'adapter aux nouvelles règles de la FIA et de piloter. Toujours piloter, réfléchir, s'entraîner. Alors je lis Senna, je regarde Senna, j'imagine Senna. Est-il vraiment possible d'aimer le sport automobile sans connaître ses héros? Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Est-il vraiment possible d'aimer le sport automobile sans vraiment comprendre la passion qui anime ses pilotes? Est-il vraiment possible d'apprécier le sport automobile sans être reconnaissant, surtout avant l'existence du halo, qu'une course se déroule sans drapeau rouge et donc sans accident grave? Chaque course peut être la dernière, et Imola, 1er mai 1994, ce fut la dernière course d'un Sénat en course vers un quatrième titre de champion du monde dans un week-end terriblement tragique. Week-end qui restera ancré dans les mémoires comme le pire week-end de l'histoire de la Formule 1.
Effectivement, hein, pour les plus âgés d'entre nous, on se souvient très bien de ce 1er mai 1994 à Imola et le choc que ça avait suscité. En tout cas, l'adoration dure encore aujourd'hui, hein, 31 ans après la mort d'Ayrton Senna.
Oui, l'adoration pour Senna est d'autant plus compréhensible qu'il savait tout ça, qu'il prenait la juste mesure de ce que ce sport représentait pour lui et pour ses fans. Il avait compris aussi l'aura qu'il dégageait et avait aussi compris qu'il se devait d'être l'ambassadeur de ce sport si dangereux. Aujourd'hui et déjà à l'époque, on peut dire que Senna a changé le visage de la Formule 1, sans signer. Il est l'enfant du pays vert et jaune, celui qui a ouvert la voie aux enfants venus de partout vers la Formule 1, on pense à Lewis Hamilton, ou vers ses rêves, que tout est possible si on s'en donne les moyens. Il est l'enfant du pays qui n'a jamais oublié là où il venait et qui, même après sa mort, donne à son pays tout ce qu'il a. Ayrton Senna est une légende et j'ai saisi toute l'ampleur de la légende dont on parle.
Et il n'est pas le seul hein, à avoir eu sa carrière écourtée de manière tragique ce week-end-là d'ailleurs. Hein.
C'est un week-end sanguin. Sanguin.
Sanglant.
Sanglant, voilà, exactement. Merci, c'est tout à fait le terme. La veille de la mort d'Ayrton Senna, Roland Ratzenberger, donc l'Autrichien, aussi avait perdu la vie en percutant un mur à plus de 300 km/h. Plein de soucis dans ce week-end-là avec les voitures. Ayrton Senna s'était précipité d'ailleurs pour avoir des informations. Juste avant ce crash, Rubens Barrichello, donc lui aussi brésilien, s'était crashé et s'en est sorti miraculeusement. Une anecdote précieuse de ce maudit 1er mai 1994. Ayrton Senna a été bouleversé de la mort de Roland Ratzenberger. Il était très émotif et s'est posé la question de savoir s'il prendrait le départ. Il était très perturbé. Étant très religieux, il a ouvert la Bible et il est tombé sur une page où il était écrit qu'il recevrait le plus beau cadeau de Dieu ce jour-là. Il a aussi discuté avec le médecin de la Formule 1 le jour de la course, avec qui il avait une relation très très amicale. Et le médecin lui a dit: tu as 3 titres champion, tu es l'homme le plus rapide du monde, pourquoi tu n'arrêtes pas? Et j'arrêterai aussi, on ira pêcher. Et c'est la dernière conversation qu'il aura. Et Ayrton Senna lui a répondu: il y a des choses qu'on ne contrôle pas, je ne peux pas arrêter, je dois continuer. C'est ce jour-là que Ayrton Senna a pris le volant pour la dernière fois. Le jour de la course, Ayrton Senna avait glissé un drapeau autrichien dans son cockpit pour rendre hommage au pilote de Simtech qu'il connaissait bien, Roland Ratzenberger, et il n'aura jamais pu lui rendre hommage.
Anna Felous, vous êtes donc très émue par la disparition d'Ayrton Senna. La Formule 1, on n'en parle pas forcément toujours, tous les jours, etc. Qu'est-ce qui vous fascine dans ce sport?
C'est un sport qui est déjà très technique. Il y a plusieurs facettes de ce sport. Il y a le côté très technique, le côté on travaille en équipe avec une voiture, mais une voiture, c'est quoi? C'est une équipe complète derrière, des mécaniciens, des ingénieurs, etc. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté réflexe. C'est un sport extrêmement exigeant d'un point de vue neurologique. Les entraînements sont très très intenses pour améliorer les réflexes du pilote. Et puis il y a le côté stratégique. La stratégie sur comment aborder la course, quelle est la meilleure stratégie de pneus, comment faire changer les pneus en perdant le moins de temps possible, comment pousser au plus fort la voiture et comment en tant que pilote piloter finalement, laisser tous les problèmes de côté et se concentrer uniquement sur la route. C'est un sport qui est passionnant, qui qui permet de se concentrer sur la vitesse, mais pas seulement sur vraiment la précision. Il y a des virages où en fait on est à quelques millimètres du mur, tout est calibré, calculé, et je trouve ça exceptionnel. Et j'ai une très très grande admiration pour les 20 pilotes qui peuvent être les 20 pilotes du monde qui peuvent être sur la piste en Formule 1. Après, il y a d'autres formules. Il y a la Formule 2, il y a la Formule 3, il y a la Formule 4 où on peut retrouver un Israélien, Elbag, donc qui est bien sûr le frère de Liri Elbag, l'ancien otage du Hamas. Il y a plusieurs ligues et c'est toujours très très intéressant de voir comment chaque pilote aborde la course qui arrive. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel.
Merci beaucoup Anna Felous qui nous a donné envie de nous intéresser à la Formule 1. Merci beaucoup pour cette passion partagée du sport tous les dimanches. On vous retrouve Anna Felous la semaine prochaine. Bonne semaine à vous, merci.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
6h15 minutes, l'heure du rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour. À la une de l'actualité, à Jérusalem, des milliers de personnes se sont retrouvées devant le Kotel hier soir pour commémorer Tisha B'Av et la destruction des temples. Le Hamas publie une nouvelle vidéo de propagande, cette fois-ci celle d'Eviatar David. La famille du jeune homme en a autorisé 40 secondes de diffusion. Eviatar y est squelettique. Il ne mange pas pendant plusieurs jours d'affilée et il craint que ce soit sa propre tombe qu'il creuse sur ces images, tant il sent qu'il est en train de se diriger vers la mort. Hier soir sur X, le ministre français des Affaires étrangères a condamné ces vidéos de propagande du Hamas. Le premier ministre Netanyahou et le président de l'État d'Israël, eux, se sont entretenus avec la famille d'Eviatar David. Sur le terrain, le commandant adjoint du bataillon, Cheikh Radouane du Hamas, éliminé par Tsahal, il était en charge de la brigade terroriste de la ville de Gaza. Au chapitre humanitaire, des avions ont largué 90 colis d'aide sur la bande de Gaza hier.
Merci Eva Soto, on vous retrouve à 6h30 pour un nouveau point complet sur l'actualité.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
6h17 sur l'antenne de Radio J. Eh bien, oui, Shabbat c'est terminé. Alors, Shavuatov d'Avram Tal. C'est tout de suite sur Radio J.
בקצב ניתן ומה שיהיה פה יהיה תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו גם בעצב גם בשמחות את לא עוזבת דיית נכון עשינו טעויות ומי יכול עלינו ככה את אומרת לי פשוט תתחיל לנגן בקצב תיתן ומה שיהיה פה
C'était Avraham Tal et Shavuatov sur Radio J.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Merci d'être avec nous comme chaque dimanche sur Radio J pour votre rendez-vous hebdomadaire avec l'histoire et avec Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien, dont le dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, est paru aux éditions Ballant. Bonjour Vladimir Fedorovski.
Quel plaisir d'être avec vous. Et alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous allons parler de la période que j'adore.
Et oui, d'Elisabeth, francophile par excellence, d'Artagnan, Saint-Pétersbourg. Plein de le mystère aussi d'Armand Letzok. Vous souhaitez commencer par quoi ?
Je voudrais commencer par l'époque, parce que tout le monde pense que cette ville extraordinaire avec ses couleurs et le mélange de l'architecture créée à Saint-Pétersbourg est liée avec Pierre le Grand. C'est pas vrai. Il faut dire que la création de Saint-Pétersbourg, telle qu'on connaît, est liée avec la fille de Pierre le Grand. Et avec une période que j'adore à raconter, je vais d'ailleurs consacrer l'année prochaine une triptyque sur ça. J'ai commencé avec Ivan le Terrible, j'ai continué avec Pierre le Grand, et puis je vais terminer avec Catherine II. Mais au milieu de ce triptyque, il y a un personnage que je voudrais introduire tout de suite dans notre chronique. C'est Armand Letzok. Personne ne le connaît. Je l'appelle D'Artagnan de Saint-Pétersbourg. Il était l'ami de Pierre le Grand. Il était l'amant de deux tsarines. Il a organisé deux coups d'État. Il a inventé Catherine II. Personne ne connaît D'Artagnan de Saint-Pétersbourg.
Mais non, personne. Pourquoi D'Artagnan de Saint-Pétersbourg?
Parce que c'est quelqu'un qui est un grand aventurier, grand amoureux du XXe siècle, grand médecin, il faut dire. Vous savez, son histoire, c'est presque par hasard. Il fait quelques bêtises en France à 16 ans. Il doit partir pour se cacher de la justice en France. Et comme il était de la famille des médecins, il a commencé les études de médecin, il écrit au tsar. Il file aller sur ses traces en Hollande pour regarder comment elle travaille, il écrit au Pierre le Grand. Il vient là-bas à Saint-Pétersbourg, il devient le médecin préféré et le favori de Pierre le Grand. Pour être franc, il était favori aussi de sa femme, et je pense qu'il a eu une histoire sentimentale très risquée avec Pierre le Grand. Armand de Letzok qui a poussé cette période, vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point la France est devenue adulée à l'époque en Russie, parce que la fille de Pierre...
Et comment ça se manifestait justement, cette France adulée?
Vous savez, toute l'élite russe, elle commençait déjà avec Pierre le Grand, s'habillait avec les Français, ils ont, à la cour, ils ont parlé la langue française, ils ont toujours pensé qu'on peut se rapprocher aussi sur le plan diplomatique, mais hélas, il y avait deux parties, même trois parties pour être là-bas. Il y a une partie pro-allemand, pro-prussien, il y a une partie, paradoxalement, et ça c'est une grande erreur et une illusion qui maintenant est montrée, d'avoir des bons rapports avec les Anglais, mais surtout avec les Français. Et bref, Letzok, pendant cette période, vous comprenez, c'est un siècle très particulier, puisque Pierre le Grand, il a changé l'ordre de succession, il a donné la possibilité aux femmes d'accéder au trône de la Russie. Et il y avait cinq femmes, vous imaginez, cinq femmes qui ont régné en Russie tout le XVIIIe siècle. Vous connaissez Elisabeth et Catherine, mais il y avait deux hommes. Tout ça, les femmes sont extraordinaires. Et je dois vous dire que là, peut-être le moment fatidique est lié avec l'arrivée d'Elisabeth au pouvoir. C'est 1741. Seuls les romans de cap et épée, ils gardent le secret de ce genre de complot. Letzok, avec son ami ambassadeur français, marquis de la Chatardie, ils organisent de A à Z un coup d'État en une nuit. Ils placent cette femme splendide qui était la fille de Pierre le Grand au trône de la Russie.
Et pourquoi?
Parce que à l'époque, la reine précédente, c'était la nièce de Pierre le Grand, elle s'appelait Anne, et puis enfin il y avait une régente, c'était marqué par le désir de faire faire le rapprochement avec les Allemands. Et c'était pas du tout l'intérêt de la Russie. Et la partie de l'Estoque, c'était une partie très intéressante. Ils ont fait un pari assez étonnant, presque contre l'avis du gouvernement français. Ils ont voulu construire avant l'heure cette alliance entre la France et la Russie en pensant que c'est ça l'avenir de l'Europe. Mais bref, ils ont fait un coup d'État, ils ont réussi un coup d'État, et à partir de là, l'esthétique, la langue française, les échanges, ils ont envoyé plein de gens à Paris pour être formés. Tout ça s'est développé d'une manière...
Plein de gens à Paris pour être formés sur quoi ?
Sur formés de métier, parce que Pierre le Grand, il voulait les échanges dans le domaine d'éducation, et surtout, il voulait former l'élite à la technique occidentale. Pour être franc, vous savez, Pierre le Grand, contrairement à ce qu'on pense, il ne voulait pas du tout faire de la Russie l'Europe. Il pensait que la Russie fait partie de l'Europe, mais il ne voulait pas tuer la civilisation russe. Mais en revanche, il voulait la
métisser, en fait.
Oui, il voulait la métisser, exactement. Vous utilisez un très bon mot, d'une part, et d'autre part, il voulait... surtout utiliser banalement, comme souvent le cas, la technique occidentale pour porter la Russie au pinacle. Mais pour revenir à l'Estoque, il y avait un élément, comme je vais vous raconter ça plus tard, qui est assez inattendu. Il a réfléchi comment la Russie peut évoluer plus tard. Et c'est lui qui a proposé de faire, vous savez, Elisabeth, elle ne pouvait pas avoir des enfants, et par conséquent, elle a adopté son neveu, qui était le neveu de sa sœur, il était le fils de sa sœur, il l'a fait venir en Russie, il lui a donné le titre de son héritier sous le nom de Pierre III. Le garçon était vraiment mal formé, il était il ne s'intéressait pas à la Russie, il a eu 15 ans qu'il a débarqué là-bas, et ce français, ce médecin français, en regardant l'enfant, il a dit on peut remédier en le faisant marier. Et il a choisi, d'une manière assez pertinente, une petite princesse allemande dans la petite principauté au service de Frédéric III, et il a inventé une femme qu'il va jouer un rôle à la fois pour la francophonie, pour le siècle et pour notre histoire. C'était Catherine II, une petite princesse allemande qui va devenir la plus grande tsarine qui existait dans l'histoire de la Russie. Et c'était déjà la fin de 18e siècle.
Alors, effectivement, hein, Catherine II et la France, on va en reparler. Vous avez évoqué le fait des échanges hein, pendant cette période que vous venez d'évoquer, la période où Elisabeth a été mise sur le trône par un complot. Mais ça, en Russie, quelles sont les conséquences concrètes de ces échanges entre la France et la Russie? Rapidement,
je vais vous dire, il y a les conséquences de caractère technique, parce qu'il y a beaucoup de techniciens qui ont été formés en France, et puis Elisabeth, c'est la création de la Russie telle que nous connaissons. Elisabeth, c'est l'Ermitage. Elisabeth, c'est les musées. Elisabeth, c'est la construction des petits palais près de Saint-Pétersbourg. Et chaque fois, la France intervient d'une manière directe, par les architectes, par les achats de tableaux, par les échanges très approfondis entre les étudiants. Les gens ne savent pas que l'Académie de sciences, c'est une influence directe de l'Académie française. Il y avait un des collaborateurs de l'époque, un certain Chouvalov, qui a passé les meilleures années de sa vie, de sa jeunesse à Paris, et après il a transposé l'expérience française en Russie. Bref, c'était l'époque où la langue française est devenue presque obligatoire en Russie, et à la cour des tsars, il y avait la langue française qui a triomphé, la francophilie d'Elisabeth.
Merci beaucoup Vladimir Fedorovski, diplomate russo-ukrainien. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan, le terrible dialogue avec l'histoire, est à retrouver aux éditions Ballant. Bonne journée, bon dimanche.
Vladimir Fedorovski. Ses chroniques sont à retrouver en podcast sur radioj.fr. Les prochains rendez-vous de cette matinale, 6h40, la chronique du docteur Serge Raffal, c'est bon pour la santé. 6h35, la Mevorach Zerbib, le Rav pour son Dvar Torah.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
Il est 6h30, soyez les bienvenus sur Radio J. Bon réveil à l'écoute de la matinale week-end. Nous sommes le dimanche 3 août 2025. À suivre le journal de la rédaction avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
À la une de l'actualité, le Hamas publie une nouvelle vidéo de propagande, cette fois-ci celle d'Eviatar David.
La famille du jeune homme en a autorisé 40 secondes de diffusion sur ces images. Eviatar est squelettique, il explique qu'il ne mange pas pendant plusieurs jours d'affilée et on le voit creuser un trou dans un tunnel. Il dit, probablement sous la dictée du Hamas, qu'il craint que ce soit sa propre tombe, tant il sent qu'il est en train de se diriger vers la mort. Des rassemblements ont eu lieu simultanément en Israël hier soir au carrefour dans les villes et les villages de tout le pays. Et ce sont des milliers de personnes qui se sont réunies place des otages à Tel Aviv. La sœur d'Eviatar, Yela David, a pris la parole à la tribune.
Le Hamas utilise Eviatar dans l'une des campagnes les plus horribles et les plus calculées qui soient. Il l'affame délibérément, utilise systématiquement ses souffrances atroces comme un outil pervers pour leur propagande dépravée. C'est assez, assez, on en a assez. Mon cher frère Eviatar, maman, papa et moi t'aimons tellement. Et nous pleurons parce que tu nous manques tant. Maman est brisée, elle ne travaille plus. Papa entend ta voix dans la nuit, il ne peut pas dormir. Mais Ellie et moi essayons de prendre soin d'eux autant que possible.
La sœur d'Eviatar David hier soir place des otages et selon les services israéliens, le Hamas et ses hommes ont bien de quoi se nourrir et affament donc effectivement volontairement les otages. Il y a encore 50 otages dans la bande de Gaza, dont 20 encore vivants.
Hier soir sur X, le ministre français des Affaires étrangères a condamné les vidéos de propagande du Hamas, des images ignobles et insupportables, a écrit Jean-Noël Barrot.
Le Premier ministre Netanyahou et le président de l'État d'Israël se sont entretenus avec la famille d'Eviatar David, également la mère de l'otage Guy Gilboa Dalal qui est détenu avec lui. Le cœur de la nation brûle d'inquiétude et de douleur, écrit le bureau du président Herzog dans un communiqué.
C'est dans ce contexte que l'administration Trump change de stratégie dans les négociations pour libérer les otages.
Selon l'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, les discussions doivent être centrées sur le tout ou rien, c'est-à-dire retour de tous les otages en une seule fois, donc plus par phase, et la fin totale de la guerre. C'est ce qu'a dit Steve Witkoff aux familles d'otages à Tel Aviv. Il a affirmé que c'est le président Trump lui-même qui avait souhaité ces rencontres pour entendre leurs doléances.
Sur le terrain, le commandant adjoint du bataillon Sheikh Radwan du Hamas éliminé par Tzal.
Il était en charge de la brigade terroriste de la ville de Gaza et s'occupait d'organiser des attaques contre Israël et Tzal. L'opération a eu lieu la semaine dernière et ces deux derniers jours, Tzal a frappé plus de 130 cibles terroristes dans la bande de Gaza. Actuellement, 4 divisions terrestres sont déployées sur le terrain.
Au chapitre humanitaire, des avions en provenance de Jordanie, des Émirats Arabes Unis, d'Égypte, d'Allemagne et de France ont largué 90 colis d'aide humanitaire.
Ces opérations ont eu lieu dans le nord et le sud de la bande de Gaza au cours des dernières heures. Les colis contiennent de la nourriture. 220 camions chargés de vivres passent aussi chaque jour la frontière, selon l'Allemagne. Même si Berlin estime que cela est très insuffisant pour atténuer une situation d'urgence, le gouvernement allemand dénonce aussi le Hamas qui fait barrage à la livraison de ces aides à la population. Et puis, par ailleurs, à Jérusalem, hier soir, des milliers de personnes se sont rendues au Kotel pour commémorer Tisha B'Av et la destruction des deux temples juifs.
Un juif new-yorkais de 70 ans fait partie des 4 citoyens américains détenus en Iran.
C'est ce que rapporte le New York Times. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, l'homme est propriétaire d'une bijouterie et est interrogé au sujet d'un voyage en Israël. Les 4 otages du régime islamique s'étaient tous rendus en Iran pour rendre visite à leurs proches. Les familles ont demandé à garder l'anonymat, craignant une aggravation de leur situation sur place.
La guerre en Ukraine. Kiev a attaqué hier des raffineries raffineries et des entreprises du complexe militaro-industriel russe.
Ainsi que des sites de stockage et de lancement de drones iraniens, ceux de type Shahed, utilisés par la Russie pour attaquer l'Ukraine. Pour ce qui concerne l'Europe, l'ancien ambassadeur de France en Russie évoque la stratégie de Moscou au micro de LCI, Pierre Lévy.
La Russie n'attaquera pas forcément au sens militaire du terme. Elle pourra tester l'alliance peut-être avec des opérations sous faux drapeau. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de façons sur un mode hybride d'intervenir et d'affaiblir les pays européens, de fausser des élections nationales, d'utiliser certains États membres. Je pense en particulier la Hongrie ou la Slovaquie à son bénéfice. Donc clairement, on est dans une confrontation de longue haleine.
Pierre Lévy, ancien ambassadeur de France en Russie.
Merci Eva Soto. Rendez-vous à 6h45 pour un nouveau rappel des titres de l'actualité.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
6h35 minutes, l'heure de retrouver le rave Mevorar Zerbib pour son Dvar Torah.
Aujourd'hui, je vous dis pas bonjour. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un bonjour. Et que comme aujourd'hui nous sommes le 9 Av, le jeûne du 9 Av, le jour le plus funeste du calendrier, jour de deuil, eh bien, on ne se salue pas. C'est peut-être un enseignement pour tous les autres jours, pour apprendre à se saluer et donner toute l'importance à un salut que l'on va donner et qu'on va donner même en premier pour, je dirais, avoir une vie plus longue. Parce que quand on devance le bonjour à une autre personne, eh bien, ça rallonge la vie. Mais aujourd'hui, c'est le 9 Av. On va pas trop développer d'autres choses qui sont en dehors du deuil parce qu'on doit rester concentré sur cette journée qui est donc appelée le jeûne du cinquième mois. Cinq raisons les plus connues, c'est la destruction du premier et du deuxième temple qui sont arrivés à près de 500 années de différence. La même date, le 9 Av, mais initialement, c'est le jour où les enfants d'Israël avaient pleuré pour rien. Ils avaient envoyé des explorateurs pour voir comment conquérir la terre de Canaan. Et puis, les explorateurs qui étaient envoyés au nombre de 12, suivant les 12 tribus, ils n'avaient pas confiance, une tribu pour l'autre. Il fallait que chacun envoie son propre représentant. Ça commence mal. Et sur les 12 envoyés, eh bien 2 sont venus avec un bon compte rendu de confiance, d'espoir. Et puis 10 sont venus avec un compte rendu qui était du désarroi, du découragement le plus complet, qui va entraîner que les enfants d'Israël le soir du 9 Av, parce qu'ils sont revenus le 9 Av, eh bien se sont mis à pleurer. Et Dieu a dit, mais vous pleurez pour rien, il s'est rien passé, vous faites des calculs mais je suis là, vous n'avez pas confiance, vous avez pleuré pour rien ce soir-là, alors vous pleurerez pour quelque chose. Briach el chinam, des pleurs gratuits. C'est intéressant parce que d'un côté il y a les pleurs gratuits qui étaient mauvais. Et de l'autre côté, on sait que la destruction du deuxième temple est due à la haine gratuite. Sinatrinam. Il y a beaucoup de gratuits. La haine gratuite, les pleurs gratuits. Et on doit avoir la possibilité de construire, de développer avatrinam, l'amour gratuit. En ce jour de Tisha B'Av, eh bien, ce que l'on doit avoir comme conscience, eh bien, c'est l'autre. C'est la possibilité de réduire la distance qu'on a avec Hachem, parce que, comme l'explique Yinoka, une idée très fondamentale, toute la problématique du 9 Av, c'est la distance qui s'est établie entre nous et Dieu, et l'impression du Hester Panim, que Dieu cache son visage, comme s'il voudrait, eh bien, qu'il y ait un éloignement. Alors, on va essayer de réduire cet éloignement en le cherchant. Et oui, Tzion a besoin de recherche. Et cette recherche va se faire à travers la prise de conscience, le jeûne, interdiction de manger et de boire, mais pas seulement. Le jour du 9 Av, c'est un jour où il y a les 5 mortifications que l'on retrouve aussi le jour de Kippour, comme ne pas se laver, ne pas s'enduire d'onguents ou de crème de lotion, ne pas avoir des relations conjugales et ne pas mettre des chaussures en cuir. à part le fait de l'interdiction de manger, de boire. Bien évidemment, une personne dont l'état de santé ne permet pas de jeûner est dispensée du jeûne. Alors, évidemment, c'est toujours difficile de jeûner. Alors, c'est pas parce qu'on a un petit mal de tête ou parce qu'on n'est pas très bien, parce qu'on n'est pas à l'aise quand on jeûne, qu'on serait dispensé du jeûne. Non, on doit rester solidaire de l'ensemble de la communauté et jeûner, faire un effort. Même si ça doit voir comme incidence qu'on va rester au frais, peut-être se reposer et pas avoir une activité intense. Ce jour, d'ailleurs, ce jour-là, on doit rester concentré sur le deuil. On n'a même pas le droit d'étudier la Torah. En tout cas, pas des choses autres que des choses tristes. Les lamentations de Jérémie, les lois de deuil. Parce que l'étude procure de la joie. Ou, pour pouvoir étudier, il faut être dans la joie. Enfin, en tout cas, l'étude est synonyme de joie. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier, si ce n'est que, parce que ce serait pas, c'est pas possible de passer une journée sans étudier. Mais on peut étudier les passages tristes, donc, du prophète Jérémie, les lamentations de Jérémie, Echa, ou les passages dans le Talmud qui parlent de la destruction du deuxième temple, du premier et du deuxième temple. Enfin, il y a des choses que l'on peut étudier, ou les lois de deuil. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour une émission spéciale, Tisha B'Av, à partir de 14h, et toute une après-midi spécifique à cette journée de deuil. Je ne vous dis pas au revoir, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure à 14h.
Merci Rav, on vous retrouve tous les jours sur l'antenne de Radio J.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Sur Radio J, on prend soin de vous tous les jours et y compris le dimanche avec C'est bon pour la santé présenté par le docteur Serge Raphaël. Bonjour Serge.
Bonjour Eva.
Vous souhaitiez ce matin nous communiquer les conclusions d'une grande étude internationale publiée en décembre 2024 qui a compilé les résultats de nombreux essais cliniques afin de déterminer l'efficacité et la quantité d'activité physique hebdomadaire nécessaire à une perte de poids.
Le surpoids et l'obésité constituent un des plus importants problèmes de santé actuellement dans le monde, un véritable fléau. Au cours des 50 dernières années qui viennent de s'écouler, leur prévalence a triplé à l'échelle mondiale. Le record appartenant aux îles Nauru, Samoa et Tonga en Océanie et Polynésie, avec 60% d'obèses. D'après les prévisions, 260 millions de personnes seront en surpoids ou obèses d'ici 2050. Aux États-Unis, le Japon est à l'inverse le pays qui présente la moyenne d'IMC la plus basse. En France, le surpoids concerne 47% des adultes, plus d'hommes, 37%, que de femmes, 24%. L'obésité touche actuellement 17% de la population, un peu plus de femmes, 17% que d'hommes, 16%. La prise en charge du surpoids et de l'obésité comprend bien sûr l'hygiène de vie, dont l'activité physique, principalement sous forme aérobique. Mais nous étions à dire vrai embarrassés pour répondre avec précision à la question de l'efficacité, du type et de la quantité d'activité physique nécessaire à une perte de poids.
Avant d'évoquer cette étude, vous pouvez nous préciser le terme d'exercice aérobique ?
C'est une activité physique, on dit également d'endurance, en opposition avec une activité physique plus violente, dite elle en résistance. Le 5000 mètres en athlétisme et le 10000 mètres, le Vélib, c'est de l'endurance. Le 50 mètres nage libre, le 400 mètres en athlétisme, le tennis en simple, c'est de la résistance. L'activité aérobique doit être continue, d'intensité modérée. Elle augmente le rythme cardiaque d'environ 20% et amplifie le système respiratoire en entraînant un petit essoufflement. Nous trouvons ici la marche relativement rapide, la montée des escaliers, le jogging, l'aquagym.
Vous pouvez nous rappeler maintenant le lien entre le surpoids, l'obésité et la santé ?
Le surpoids et l'obésité prédisposent à la survenue d'autres maladies et diminuent la qualité de vie. Les personnes en surpoids ou obèses présentent un risque plus élevé de développer des maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, angine de poitrine, infarctus du myocarde, accidents vasculaires cérébraux, métaboliques, le diabète de type 2, la NASH, des troubles digestifs, une lithiase vésiculaire, un reflux gastro-œsophagien, des problèmes rhumatologiques, lombalgie, arthrose de hanche ou du genou, les apnées du sommeil, les fuites et incontinences urinaires, et même un risque plus élevé de cancer, sein, œsophage, colon rectum, pancréas, prostate. Avec, évidemment, vous l'avez compris, un retentissement sur la qualité de vie.
À présent, venons-en à cette étude, Serge.
Il s'agit d'une méta-analyse, c'est-à-dire en l'occurrence ici de la compilation de 116 essais cliniques qui ont intégré au total près de 7000 participants, dont 2/3 de dames, 46 ans d'âge moyen, suivis pendant 8 semaines. L'objectif était de clarifier la possible association dose-réponse de 30, 150 ou 300 minutes sur le poids, le tour de taille, la graisse corporelle.
De quelle graisse parlez-vous, Serge ?
Pas la cellulite qui désole tant esthétiquement les dames, ni la graisse sous-cutanée, les petits bourrelets, les poignées d'amour, mais de la graisse abdominale ou encore viscérale, celle qui se loge en profondeur entre les muscles et les organes abdominaux, le foie, le pancréas, l'intestin, et qui entraîne certaines des complications dont nous venons de parler.
Merci docteur Serge Raffal, qu'on retrouve tous les jours sur l'antenne de Radio J.
Bloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
6h45 sur Radio J, l'heure de retrouver Eva Soto pour le rappel des titres. Bonjour Eva.
Bonjour Kevin, bonjour à tous. À la une de l'actualité, des milliers de personnes hier soir au Kotel pour commémorer Tisha B'Av, alors que le Hamas a publié hier une nouvelle vidéo de propagande, cette fois-ci celle d'Eviatar David. La famille du jeune homme en a autorisé 40 secondes de diffusion. Eviatar y apparaît squelettique. Des manifestations, des rassemblements ont eu lieu hier partout en Israël pour réclamer la libération des otages. Et hier soir sur X, le ministre français des Affaires étrangères a condamné les vidéos de propagande du Hamas, des images ignobles et insupportables, a écrit Jean-Noël Barrot. Sur le terrain, le commandant adjoint du bataillon Cheikh Radouane du Hamas, éliminé par Tsahal, il était en charge de la brigade terroriste de la ville de Gaza. Au chapitre humanitaire, des avions en provenance de Jordanie, des Émirats, d'Égypte, d'Allemagne et de France ont largué 90 colis d'aide humanitaire. Ces opérations ont eu lieu au cours des dernières heures.
Merci Eva Soto. Prochain rappel des titres à 7h15.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le
6h46 sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, le mot yiddish du dimanche avec Lise Gutmann.
Radio J est comme chaque dimanche matin, le mot yiddish du jour.
A yiddish vo.
Bonjour Lise Gutmann.
Bonjour Eva.
Alors aujourd'hui, on parle de fringues, de vêtements, de shmates.
Et pas que, vous allez voir, je crois que ça va beaucoup vous faire rire. Alors, dit shmates au pluriel, ou alors donne shmates, mais il y a aussi un singulier. Et puis, on peut dire aussi shmatke. Alors, dishmate, oder dishmatke, c'est le chiffon, c'est le torchon, c'est la serpillière, un mot pour tant de choses, n'est-ce pas? C'est les haillons, c'est le vêtement chiffonné. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, les shmates?
Pour moi, les shmates, c'est les fripes. C'est les chics un peu.
Les fripes un peu chics, ouais. Aussi. Voilà, bah ça représente tout cela. Alors, il y a une expression qui est très drôle, que j'ai beaucoup entendue. Quand ma maman pensait que mon père n'était pas à la hauteur avec les enfants, qu'il n'était pas assez sévère avec nous, elle lui disait, mais comme d'autres locuteurs du yiddish, elle lui disait « Bista tate oder ashmate ». Et dans le dictionnaire, ça veut dire t'es un père ou t'es un schmate. Mais le schmate dans ce sens-là, et c'est dans
c'est
le dictionnaire.
Serpillère.
Non, c'est une chiffmolle.
Ah voilà.
Voilà.
Mais c'est ça, une chiffmolle. En français, ça, la chiffmolle, ça, voilà, c'est synonyme c'est avec serpillère.
Voilà. Bistata, t'es oder un schmate. Est-ce que t'es un père ou une chiffmolle? Je l'ai trouvé dans le dictionnaire. Je me suis dit qu'il fallait vraiment. Alors, il y a un adjectif que moi, j'utilise tout le temps, même au milieu d'une phrase en français. C'est schmatédique. Schmatédique, c'est en charpie. C'est de mauvaise qualité. Alors, par exemple, vous êtes avec une copine. Vous rentrez dans un magasin. Et vous regardez les vêtements et franchement, c'est pas top. Et histoire de pas trop vous faire remarquer, de ne pas vexer le vendeur ou la vendeuse, vous allez dire à votre copine, regarde, c'est schmat et dit que c'est pas possible.
C'est pas très beau.
Voilà, c'est de la mauvaise qualité. Alors maintenant, il y a un autre mot tiré de schmat, c'est schmat et vate. minable, piteux, schmatevate.
Ça, c'est rigolo.
Voilà. Mais heureusement, on peut porter des chaînes Kleider, des beaux vêtements. Parce qu'il n'y a pas que des schmates dans la vie. Et heureusement, par exemple, un feiner mantle, un très beau manteau. Voilà. Et alors, dans le sentier des années 60, où il y avait déjà beaucoup de grossistes, certains à qui vous demandiez « Tu fais quoi dans la vie ?» ils vous disaient « Je suis schmatologue distingué. »
Ou « Je suis dans le schmates. »
Voilà, ou schmatologue distingué, ou dans le schmates, ou dans le schmat. Pour terminer, on a tous eu un schmat doudou. C'est ce doudou si usé qu'il tombe en lambeaux. Une très belle histoire pour nos Kinderler, pour les petits-enfants. Et l'histoire existe aussi en librairie, le schmat doudou. Alors, on va terminer cette émission, Eva, avec une chanson pour enfants, justement, qui s'intitule « Ob ich mir ein Mantel », j'ai un joli manteau, mais à force de le porter et de l'user, ce manteau, il devient un bouton. Alors, pour savoir comment, on écoute la chanson. Merci.
Merci.
Ob ich mir ein Mantel von verseitigen Stoff, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Hat es nicht in sich kein einzigen Stoff, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Darum hab ich sich betracht, von dem Mantel a Weste gemacht. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, von dem Mantel a Weste gemacht. Ob ich mir a Weste von verzeitigen Stoff, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Hat es nicht in sich kein einzigen Stoff, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Darum hab ich sich betracht, von dem Westerl-Hittel gemacht. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, von dem Westerl-Hittel gemacht. I had a little cap, it was old as it would be, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. What I'd ever do with it, I just couldn't see. Tra la 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 la. So I thought a little while, made myself a button in the very latest style. Tra la 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 la, tra la 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 la. Made myself a button in the very latest style. Ob ich mir ein Knäppel von verzeitigen Stoff. Tra la 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 la. Hat es nicht in sich kein einzigen Stoff, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Darum hab ich sich betracht, von dem Knäppel gar nicht still gemacht. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, von dem Knäppel gar nicht still gemacht. I had a little nothing, it was old as it would be, tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. What I'd ever do with it, I just couldn't see. Tra la 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 la. So I thought a little while, made myself a song in the very latest style. Tra la 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 la.
Merci Liv Gutmann, qu'on retrouve tous les dimanches sur Radio J pour son moment yiddish.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Radio J.
6h52 minutes sur l'antenne de Radio J. Merci de votre fidélité. Il est l'heure d'un jour, une mitzvah avec le Rav Chaim Nissenbaum.
Aujourd'hui, nous le savons tous, est le jour du 9 Av. Jour du 9 Av, jour tragique s'il en est, puisqu'il commémore à la fois la destruction du premier puis du second temple, à des siècles d'intervalle bien sûr. Il est aussi l'occasion de nous souvenir de toutes les tragédies qui frappèrent notre peuple. Il y en a de nombreuses depuis, comme on le disait au Moyen-Âge, le brûlement du Talmud en place de Grève, en place de l'Hôtel de Ville à Paris aujourd'hui, au XIIIe siècle, jusqu'à la Shoah dans certaines communautés. On se souvient de tout cela. Le jeûne va durer pour Paris et sa région jusqu'à ce soir à 22h03. Et bien sûr, c'est un jour très grave. C'est un jour très grave, mais qui ne doit pas nous faire perdre espoir. D'ailleurs, aujourd'hui même, on fera également un sioum, la conclusion de l'étude d'un traité du Talmud, tout à l'heure à 14h10, sur cette antenne. Et on le fera bien sûr avec un traité qu'on a le droit d'étudier, au moins pour sa dernière partie, celle qu'on étudiera aujourd'hui, le jour du 9 av, le traité Moed-Katan. Mais c'est une occasion de dire que rien ne s'arrête jamais. C'est une occasion de dire que si aujourd'hui est triste, et si nous devons respecter cette tristesse et la ressentir profondément, nous savons aussi qu'elle débouchera sur la plus grande des joies, celle de la venue du Mashiach, la venue du Messie, que nous entendions des bonnes nouvelles.
Merci Rav Nissenbaum, qu'on retrouve tous les jours sur l'antenne de Radio J.
Kevin Derbloom, Eva Soto, le 6-9, Radio J.
Et comme tous les dimanches matins, notre rendez-vous avec la chronique où on casse les fake news et on explique les discours qui les sous-tendent, The Fake Breaker. Et une semaine sur deux, on a bien sûr rendez-vous avec Rafi Cohen. Bonjour Rafi.
Bonjour Eva.
Rafi, il y a deux semaines, nous avons évoqué la légèreté avec laquelle la SDN avait validé en 1920, à la conférence de San Remo, les accords de Sykes-Picot de 1916 entre la France et la Grande-Bretagne pour se partager le Proche et le Moyen-Orient.
Oui, et qui sont aujourd'hui lourds de conséquences, puisque ces accords qui ont validé des frontières tracées au cordeau au Moyen-Orient pour faciliter la gestion et l'exploitation des ressources locales par ces deux pays ne tenaient pas du tout compte de l'implantation des regroupements ethniques.
Alors on se disait aussi que ce pouvait être considéré comme une erreur de jeunesse de la SDN.
Pourquoi pas ? Mais l'ONU qui la remplace et qui naît en octobre 1945... après 4 ans de débats internationaux voulus par le président américain Roosevelt pour remplacer la SDN qui n'a pas su éviter la Seconde Guerre mondiale, eh bien, l'ONU a entériné les accords Sykes-Picot sans exiger aucune rectification. Alors que cette attitude flagrante, tout droit héritée des habitudes colonisateurs, aurait pu être un tant soit peu réparée, ne serait-ce que par des échanges de territoires frontaliers, puisque la création de l'État syrien date d'avril 1946, 6 mois plus tard, et qui aurait pu, sans aucun doute, atténuer les inextricables conflits interethniques actuels dont les Druzes payent un prix fort et douloureux aujourd'hui. Et puis l'ONU n'en est pas à une contradiction près, ni même à une grossière erreur près. Si l'on revient sur certaines de ses plus grosses bévues humanitaires, par exemple, le catastrophique génocide au Rwanda en 1994, il aurait pu être évité ou tout du moins fortement freiné si les alertes précoces avaient été entendues et anticipées par les instances de l'ONU, c'est ce qu'on lui demande. Et ben, au lieu de cela, et malgré plusieurs avertissements, l'ONU a fait retirer d'importants contingents des casques bleus tout au début du génocide, laissant ainsi la population Tutsi sans protection. Et plus proche de nous, la guerre civile en Syrie, qui commence d'abord pacifiquement à la faveur du printemps arabe à partir de 2011, se poursuit par une répression terrible des forces gouvernementales, puis par l'implication des islamistes. Eh bien, durant les premières années du conflit, la mésentente entre les membres du Conseil de sécurité a provoqué sa paralysie, laissant libre cours au massacre et à une guerre qui s'est cruellement prolongée en impasse politique et une guerre qui n'est pas officiellement terminée, avec des estimations autour de 600 000 morts quand même. Et de même, en 2018, la lenteur d'intervention en Birmanie a favorisé la persécution et le déplacement par les Birmans de 750 000 musulmans de l'ethnie Rohingyas vers le Bangladesh. Déplacement qui est considéré comme une opération de nettoyage ethnique.
Et tout ça, hein, sans compter la fameuse résolution de 1975, il y a donc 50 ans.
Oui, le 10 novembre, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution, qui déclarant que le sionisme est une forme de racisme et de discrimination raciale. Cette résolution est adoptée le 10 novembre avec un vote de 72 contre 35 et 32 abstentions. Avant l'adoption de la fameuse résolution 3379, l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, Daniel Patrick Moynihan, avait pourtant prévenu. Les Nations Unies sont sur le point de faire de l'antisémitisme une loi internationale. Il prononce alors ce discours contre ce texte.
Les États-Unis ne reconnaissent pas, ne se conformeront pas, n'acquiesceront jamais à cet acte infâme. Un grand mal a été déchaîné sur le monde.
Ouais, dit-il. Après que le projet de résolution eut été adopté par le comité préparatoire et que les tentatives de reporter le vote eurent échoué, La résolution 3379 a été soumise à l'Assemblée générale des Nations unies pour un vote sous le parrainage de la Ligue arabe avec le soutien de ses États membres et celui des pays du bloc soviétique, ainsi que de nombreux pays africains, c'est eux qui l'adopteront. Et il faudra 16 ans avant que cette erreur soit corrigée. Ce texte ne sera révoqué qu'en 1991 par cette même Assemblée générale des Nations unies.
Et oui, là où on apprend aussi que la majorité n'a pas forcément raison, même dans les instances internationales.
Mais en tout cas, sur ce point, l'Assemblée générale de l'ONU a reconnu l'erreur. Et oui, parce que l'émancipation des Juifs reste marginalisée par les autres peuples qui luttent pour la leur. Un phénomène qui a perduré sous cette forme et bien d'autres.
Merci beaucoup Rafi Cohen. Rafi Cohen qu'on retrouve bien sûr une semaine sur deux sur Radio J tous les dimanches. The Fake Breaker à suivre également et à podcaster sur radioj.fr.
Radio J. Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 9h, au micro de Frédéric Aziza. Les enfants de la République, de Frédéric Aziza, c'est tous les dimanches à 9h, uniquement sur Radio J.